Madame, monsieur, merci d'être venu. Bon, peut-être le microphone n'est même pas utile. Merci d'être venu et en bravant les températures estivales aujourd'hui pour écouter, peut-être parler un tout petit peu avec Marie Dumourat et Guillaume Brac qui sont là. Je crois que la plupart d'entre vous ont vu les films de Marie. Et donc... n'hésitez pas à poser des questions, mais bon, je vais commencer. Donc, asseyez-vous, si vous voulez.
Je me demandais si peut-être, comme on est un peu en petit comité, on ne pourrait pas se rapprocher un petit peu.
Oui, si vous voulez vous rapprocher, peut-être on peut aussi parler sans microphone. Hein. Ouais. On ne mord pas. Hein.
On peut se regrouper dans cette zone-là.
Voilà. Voilà.
Ouais, bonne idée.
Ce sera plus intime.
Venez. Donc, normalement, le modérateur introduit toujours ses invités, ce que je ne vais pas faire. Je vais, en fait, demander à Marie de présenter Guillaume et Guillaume de présenter Marie. Voilà. Donc, en fait, la question est très simple. Marie, pourquoi vous avez invité Guillaume Brac?
Alors, bonjour. Vous êtes héroïque d'être venu... C'est vrai que comme le débat est déconnecté d'une projection, il y a une espèce d'absurdité à... Enfin, voilà, mais c'est super que vous soyez là, que tout ça... voilà, donc ça, c'est... Merci d'être là. Et donc, moi, j'ai choisi... On m'a demandé de choisir quelqu'un pour m'accompagner. Et j'ai immédiatement choisi Guillaume pour ses films. Je ne connaissais pas Guillaume, je le connais à peine, d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup ses films. Et j'étais très très touchée par notamment L'île au trésor, et j'avais vu avant Un monde sans femme, et j'avais le sentiment que Guillaume, bien que nous ne nous connaissions pas, que nous ne venions pas du même milieu social, que nous n'ayons pas eu vraisemblablement les mêmes parcours, filme quelque chose de très sensible et de très... un peu indicible, mais que j'aime beaucoup et qui pourrait se rapprocher de ce que moi je filme dans des milieux beaucoup plus peut-être rudes, enfin prédéterminés, plus je sais pas quoi, du lumpen, on va dire, pour simplifier et parler un peu grossièrement. Mais il filme les gens pour ce qu'ils sont. Je m'exprime peut-être mal, mais il cherche quelque chose qui se donne pas tout de suite et quelque chose de très sensible, très pointu, très fragile et très, très très émouvant dans la fragilité et la beauté des gens. Et c'est un peu ce que j'essaye, enfin c'est vers ces endroits-là que moi je vais aussi quand je raconte des histoires. Et ce que j'ai et puis en plus Guillaume va aussi dans des endroits très inattendus, dans Tonnerre, qui est un film beaucoup plus qu'on pourrait dire sombre, enfin ça fait bête de parler de quelqu'un qui est juste là, mais Guillaume prend des risques aussi, enfin même dans les fictions, il va pas dans les endroits les plus faciles, là il est parti dans les marécages d'une histoire d'amour, enfin je trouve ça très très touchant, et le dernier que je vous conseille beaucoup, là, Les Contes de Juillet, il y a quelque chose de très très beau dans les contes aussi, donc voilà, tout ça a fait que, bien que on ne soit pas du même milieu, je me suis sentie beaucoup plus proche du travail de Guillaume que du travail de beaucoup de consoeurs et de confrères qui sont censés être plus proches que moi parce que du documentaire. Et peut-être aussi parce que mes films sont un peu inclassables, donc du coup, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est à peu près clair.
Bah, bonjour. moi, en effet, j'étais... assez touché et assez surpris justement de cette invitation de Marie, ne venant pas justement du tout de ce sérail documentaire, et d'être invité comme ça à la Cinémathèque du documentaire, alors qu'en fait j'ai fait mes premiers pas dans le documentaire très récemment, et je viens plutôt de la fiction. Ça m'a touché et étonné. et en fait le travail de Marie, je l'ai découvert cette année seulement avec Belinda, son dernier film, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais vu In Extremis, parce que je crois que c'était la dernière projection à Paris, toute dernière. Et toi, en fait, le contact s'était fait parce que tu avais vu L'île au trésor pour une sélection de L'Acide, et tu étais chagriné que que le film n'ait pas été retenu à l'acide. Alors ouais. Que tu, voilà.
Mon premier contact avec
Et tu m'avais appelé pour me dire, vraiment, c'est...
Je prends pas le film, il est bien.
Voilà, voilà. Et après, donc, j'ai pu découvrir trois autres de tes films, en fait, très récemment, ces derniers jours. Donc, en fait, tout est encore très frais dans mon esprit. Et à la fois, c'est toujours intéressant de voir de façon très rapprochée des films. Et du coup, il y a des choses qui sautent aux yeux. Et je ne sais pas, dans cette salle, tout le monde a vu au moins plusieurs des films, ou juste pour savoir, en fait, un peu...
C'était le but, en tout cas.
Ah, d'accord, d'accord. Et donc, le dernier film que j'ai vu, puisque pas plus tard qu'aujourd'hui en DVD, c'est Je voudrais aimer personne. Dans ce que je te disais, dans le hall, c'était que j'avais eu l'impression que tu avais en quelque sorte. Tu étais devenue presque une sorte de mère à travers le cinéma de ces enfants, de ces jeunes gens qui en ont, mais qui n'en ont pas vraiment, enfin qui sont un peu orphelins d'affection ou de famille, etc. Qui est quelque chose de très beau et même c'est assez fou, et j'ai pas tellement d'autres exemples en fait dans le cinéma de consacrer comme ça une grande partie de ta carrière, de tes films, à finalement un petit cercle humain, en passant comme ça d'une sœur à une autre sœur, à un autre gamin du même foyer, etc. Et toujours dans ce territoire des Vosges. Enfin, c'est assez fou, en fait. Hein, et enfin, cette espèce de coup d'amour et de confiance et de croyance que tu places en ces gens et puis que eux te rendent en retour, mais parce qu'on connaît ça dans la fiction évidemment. Enfin, il y a des tas d'exemples comme ça de réalisateurs qui s'attachent à un acteur réciproquement et qui se suivent tout au long d'une carrière, mais dans le documentaire comme ça, c'est quelque chose. Du coup, peut-être ça m'amène à une première question, enfin une question que je me posais, c'est toi, quel a été en quelque sorte ton chemin de cinéma, mais en tout cas les cinéastes enfin qui t'ont nourri en fait et qui t'ont amené à faire toi-même des films peut-être.
C'est vrai que j'ai découvert le cinéma un peu venant d'un peu loin, de banlieue, etc., où le cinéma n'était pas donné comme ça d'emblée. À travers des ciné-clubs, donc la filmographie au départ c'était Los Olvidados de Buñuel, c'était ce genre de film, et très vite je suis allée voir tous les Ozu, les Mizoguchi, les Ford, enfin tous les peut-être qui sont d'ailleurs assez des humanistes.
Et puis des films, c'est drôle parce que j'ai vu un film d'Ozu hier mélangé à tes films en quelque sorte. C'est amusant que tu parles d'Ozu parce que c'est quand même comme ça le cinéaste des liens de la famille, etc. Ouais. Puis tu parles de Ford, c'est le cinéaste de la communauté. Enfin, ouais. C'est assez troublant en fait. Ouais. Tu parles d'Ozu et de Ford là.
Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est ces gens-là en fait qui m'ont porté, qui m'ont donné envie d'aller vers ce chemin-là. Et en même temps que j'allais voir les films, c'est vrai que je lisais beaucoup et que j'aime bien aussi dans la littérature des univers qui sont soit des mondes, Proust, La recherche du temps perdu, Balzac, j'aime beaucoup les microcosmes comme ça, et pas que évidemment, mais j'aime bien les univers Faulkner qui tourne tout dans son Yoknapatawpha, qui est son univers imaginaire qui est dans le sud des États-Unis. Et je ne me prétends pas, j'ai pas évidemment là, aucune comparaison, mais c'est vrai que j'ai pas réfléchi en lançant le premier film dans ce coin de France. Alors, je pensais pas du tout que j'allais continuer comme ça aussi longtemps.
Et qui est un coin dans lequel tu n'as pas a priori de lien familial ou
non. Ouais. Non. J'ai découvert pour des raisons
C'est une sorte de territoire de cinéma quoi.
Enfin, ouais. Ce serait trop long à expliquer les autres raisons, mais en tout cas, c'est devenu c'est comme ça que je l'ai découvert. En tout cas, c'est par le cinéma. D'ailleurs, la première fois que je suis arrivé là-bas, à Strasbourg, c'est un ingénieur du son qui est venu me chercher. Il y a des Alsaciens ici ou pas?
Non. On entend
mal. Ah bon? Mais peut-être qu'on entend mieux comme ça.
Non.
Pardon.
Parler avec le micro.
On connaît quand même l'Alsace.
D'accord. Et c'était assez impressionnant parce que la première personne qui m'a... Une cloche s'est mise à sonner, il était 10 heures. Il y a une cloche qui s'est mise à sonner, mais elle avec une... Pardon ?
C'est cette cloche.
Oui, c'est la Zenoglock, c'est ça ? Ou je ne sais pas comment on l'appelle.
C'est une cloche pour une certaine partie de la communauté qui... C'est 10 heures du soir.
Voilà, qui dit à tous les étrangers, les juifs, de quitter.
En particulier les juifs, pas tous les étrangers.
Voilà, les juifs et puis les...
Quitter la ville.
Voilà. Et c'est au moment que j'ai... C'est vraiment précisément à ce moment-là que j'ai mis mon pied pour la première fois dans ce pays. Et donc c'était très beau parce que quelqu'un me dit, ah ben, en gros, sors, quoi. Enfin, pas sors, mais enfin, voilà. Voilà. Mais du coup, j'ai fait 8 films là-bas. Je suis restée, revenue. Et je pensais pas du tout que je ferais tous ces films. Et à chaque fois, je pensais que ce serait le dernier. Et puis, ça s'est un peu imposé. Et au fond, si je considère un peu les films ensemble, je me dis que ça parle un peu pour l'humanité. Enfin, c'est vraiment... l'humanité de mon... Pas toute l'humanité, mais ça se tient. Enfin, peu importe. Enfin, c'est vraiment une communauté, une minorité qui parle un peu pour nous tous. Enfin,
oui, il y a une diversité. C'est la partie pour le tout, quoi. Enfin,
oui, c'est ça. Et simplement, c'est vrai que c'est un milieu social... très très loin d'une autre, etc. Mais ce que je filme, c'est les gens, c'est un peu, c'est peut-être, enfin, on s'y prend différemment, etc. Mais c'est un peu des choses qui sont de l'ordre du lien, de l'affection, être en lien, pas être en lien, enfin entre autres, qu'on peut retrouver un peu dans tes films. Voilà, je me permets, mais et voilà, j'ai trouvé ça chez ces gens que j'ai trouvé très beau et très émouvant et très courageux et très drôle en plus. Mais même s'il y a...
Mais alors, ce qui est paradoxal, ce qui est étonnant, c'est que tu parles d'Ozu, de Ford, qui sont un peu tes pères de cinéma, et donc la question de faire du cinéma de fiction, c'est pas posé au début, plutôt que du documentaire. Enfin.
Si, et à chaque fois que je me dis bon, là c'est le dernier, je vais faire une fiction avec 3 F, et enfin, ça, voilà. Une autoroute va s'ouvrir, c'est beaucoup plus chic, la fiction. Ou... Non, je plaisante, mais à chaque fois que je me dis, bon, je vais faire une fiction, je suis mais littéralement happée de nouveau par ce chemin-là, où je filme la réalité un peu comme en étant dans moi-même dans une sorte de fiction intérieure, quand même. Enfin, c'est vrai que souvent, j'ai une espèce de. Pas de découpage, mais je. J'essaye d'abord de raconter une histoire. C'est vrai que je documente sur rien du tout, en gros. Enfin, ce qui était un peu compliqué. Je documente parce qu'on voit des gens qu'on ne voit pas d'habitude, on les voit vivre, mais je ne suis pas dans une thématique. Je pense que je fais un petit peu librement, enfin, à ma façon.
Oui, c'est pas des films à sujet, quoi. C'est pas,
non,
c'est pas...
non, c'est plutôt... J'essaye de... Il s'avère que des films peut-être ressemblent plus à des histoires, des portraits de personnes, presque des nouvelles ou des, je sais pas, quelque chose qui restitue des choses assez intimes, assez romanesques, assez universelles, plutôt que des thématiques ou etc. Et c'est vrai que parfois je me dis bon, je vais faire une fiction peut-être avec eux ou une autre sans eux. Puis bon, là il faut encore que j'en fasse un comme ça dans cette veine-là.
Oui, parce qu'on pourrait penser. Ah, pardon.
Non,
parce que d'une certaine façon, tes films, ils sont quelque part entre l'enfance nue de Piala, et puis on pourrait aussi penser du côté de la fiction, mais la fiction du réel, je sais pas, au Jean-Charles Hue, par exemple. Enfin bon, et c'est assez. Et donc on se dit que tu pourrais.
Qui lui a utilisé des personnes réelles de la communauté yéniche pour en faire une. Enfin, un semblant de fiction. Enfin,
une fiction, pas un semblant. Une
oui, enfin, tout le monde joue son rôle,
oui.
Quand même. Enfin,
oui, oui, tout à fait. Mais disons qu'il a, voilà, un scénario, une fiction. Ils ont imaginé ensemble un. Enfin, heureusement d'ailleurs que c'est pas la vraie histoire, quand même, parce que c'est même si c'est inspiré de l'univers et tout ça. Mais oui, d'ailleurs, c'est assez remarquable ce qu'a fait Jean-Charles avec Bon, je t'ai mort, mais. Bah oui, oui. C'est vrai que L'enfance nue, c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Les 400 coups aussi. Enfin bon, tous ces films-là. Et voilà.
Parlons un tout petit peu de documentaire, Guillaume. Quelle est votre approche de documentaire? Est-ce que vous pouvez le comparer avec l'approche de Marie?
Moi, je peux répondre.
je veux bien que tu répondes, oui.
Non, ce qui m'a plu... Mais après, non, mais je veux pas... Non, ce qui m'a plu, moi, dans L'île au trésor, c'est que Guillaume arrive dans un endroit qu'il ne fréquente pas, d'habitude. C'est vrai que tu ne vas pas, a priori, dans l'île de Cergy, là, dans la... Enfin, ce n'est pas un endroit... Bon,
c'est un peu plus compliqué que ça. C'est...
Oui, mais ce n'est pas forcément des gens de ta... Enfin, c'est quand même un monde que tu ne connais pas, a priori, et tu y vas... vraiment courageux, enfin, t'y vas, t'as pas peur d'aller vers les gens, et dans cet endroit-là, t'arrives à raconter des petites histoires, à percevoir des choses qui se passent entre les uns, les autres, et qui racontent quelque chose d'une espèce d'élan de vivre, de drôlerie, c'est des choses assez ténues, mais en même temps très fortes, donc voilà.
C'est amusant d'ailleurs, c'est je me suis aperçu qu'on avait grandi, en fait, à quelques kilomètres l'un de l'autre, en fait. Parce que j'ai vu que tu avais grandi à Chatou.
Non, pas du tout.
Ah non,
tout,
d'accord.
Pas,
tu es née à Chatou, alors.
Je suis née, mais parce qu'il n'y avait pas de clinique là où j'habite.
Parce que tu as...
J'étais au lycée de Sartrouville, pour tout dire. C'est
passionnant. Ah non, tu étais à Sartrouville.
Oui.
Bah, c'est tout près de là où j'étais, parce que moi, j'étais à Saint-Germain-en-Laye.
Voilà, c'est là, les deux côtés du... Bah, bref.
Oui, bah...
Oui, c'est tout près,
mais c'est
drôle.
Mais c'est tout près, c'est à 5 kilomètres, en fait.
Ouais. Et en même temps, c'est...
C'est des mondes un peu différents.
C'est des mondes à part, ouais. Comment ? C'est du gouffre. Ouais, mais c'est bien qu'au bout du compte, on soit réunis autour d'une table.
Il ouais, y a une forêt entre les deux villes, quoi.
Oui.
La forêt, ouais. Non, mais parce que justement, tu disais beaucoup... Alors, sinon, peut-être, il faut que je réponde à la question d'Harry. Je ne sais pas, parce que je ne peux pas dire que j'ai, à proprement parler, un rapport au documentaire qui soit déjà clair et théorisé. Enfin, j'ai une approche très... Libre. Oui, très libre et instinctive. Enfin, en tout cas, je n'ai pas été formé dans telle ou telle école ou chapelle documentaire, etc. Non, mais je dirais que... Dans le fond, aussi bien dans mes films de fiction que dans mes films documentaires, j'ai probablement cherché à, on va dire, à élargir le périmètre social et humain de ma vie, en quelque sorte. Et c'est vrai que j'ai eu le sentiment de grandir dans un milieu assez étroit, assez fermé sur lui-même, assez privilégié, et que le cinéma a été le moyen que j'ai trouvé, en fait, pour me sentir en quelque sorte comme faisant partie de l'humanité et ne faisant pas partie d'un milieu, en quelque sorte. Ouais. Enfin, et donc j'ai été, dès le départ, dès mes premiers courts-métrages, attiré très loin de Paris ou de la région parisienne, et toujours dans des lieux d'ailleurs avec lesquels j'avais un lien affectif ou per quelque chose. Enfin, ce n'était pas des lieux que je choisissais par hasard, tout comme toi, tu n'as pas choisi par hasard les Vosges non plus. Enfin, il y a toujours un fil qui nous relie à un lieu, mais en tout cas, c'est comme si, en fait, dès le départ, j'ai essayé de trouver ailleurs ou chez des gens ou des personnages peut-être qui puissent être assez... différent de moi, ou socialement, culturellement, finalement quelque chose de commun. Et moi, je crois que mon rapport au documentaire, si je devais le résumer très simplement, c'est trouver chez l'autre quelque chose qui me ressemble, en fait. Voilà, en fait, c'est aussi simple que ça, je pense. Ouais. Ou en tout cas, quelque chose qui me touche et qui me... et plutôt que de chercher... Enfin bon, voilà, je ne sais pas si...
Oui, à raconter ton histoire. Mais voilà, moi, c'est ça que j'aime beaucoup, parce que... Enfin, on va pas comparer les... Mais c'est vrai que moi, j'étais entourée de gens plus prolo, on va dire, pour simplifier. Et qu'en arrivant à Paris, j'ai constaté que c'est un milieu assez codé, etc. Il n'y a pas tant de gens que ça qui vont s'aventurer vers l'autre, quoi, de toutes catégories confondues. Enfin, c'est pas vertueux ou je sais pas quoi, mais j'apprécie ça beaucoup. Mais
donc déjà dans la fiction, j'intégrais en quelque sorte le réel, puisqu'il y avait toujours
des improvisations dans votre...
Oui, des improvisations, mais même surtout des gens qui n'étaient absolument pas des comédiens. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait toujours autour des acteurs, des 3, 4, 5 acteurs professionnels, il y avait une sorte de communauté qui était des gens qui vivaient sur place, enfin, qui jouaient leur propre rôle et qui, en quelque
pas
sorte...
Pas du 5e arrondissement et tout ça, quoi. Enfin,
bah, personne, vraiment, d'ailleurs, ouais, les acteurs, ouais, ouais. Même pas,
oui,
d'ailleurs.
Oui, c'est une licence.
Mais, ouais. D'ailleurs, moi-même, je ne viens pas du 5e arrondissement.
Ou de l'équipe, enfin, bref.
Mais, comment dire... Oui, oui, en tout cas, j'ai toujours... C'était déjà dans la fiction, j'avais besoin qu'il y ait une sorte de l'air, enfin, qu'il y ait, que ça respire, que ce ne soit pas un tournage fermé sur lui-même, avec, en effet, une simple délocalisation en province d'acteurs parisiens, d'une équipe parisienne, et qui ferait un film parisien. Non, c'est au contraire qu'il y ait quelque chose un peu d'organique qui s'inscrive... Ouais.
Ni du parisien qui ferait un film anthropologique sur
oui, alors,
les
non,
autres.
En tout cas, j'espère pas. non, parce que justement, c'est pas filmer l'autre comme étant quelqu'un d'exotique et de fascinant à découvrir. Non, c'est plutôt filmer les autres comme étant en fait très proche de soi, en fait. Donc c'est un peu le contraire, je pense.
C'est bien ce qui et ça marche. Enfin, c'est bien ce qui...
Moi, j'ai une question pour vous deux. Et parlons toujours, enfin, on est dans le cadre de la cinémathèque du documentaire, donc parle du documentaire. Comment vous établissez, vous tous les deux, un rapport de confiance avec vos enfin, personnages, peut-être même pas des personnages, mais comment vous faites ?
Je pense que c'est très différent pour toi et pour moi, parce que déjà... toi, tu as consacré des films, tu as presque fait des films qui sont enfin, des monographies enfin, autour d'un personnage, ou, enfin, d'une personne, même s'il y a toujours les autres qui gravitent autour. Mais moi, mes deux seules incursions dans le documentaire, il y a quelque chose de plus... comment dire, c'est plus une mosaïque humaine, ou c'est plus une sorte de portrait un peu diffracté, comme ça, d'une communauté, ou, enfin, ou d'un... Voilà, et c'est du coup, c'est... oui, c'est un portrait à travers plusieurs personnages, et c'est vrai que j'ai jamais encore osé, en quelque sorte, ou jamais peut-être eu l'occasion ou une évidence qui soit présentée à moi de consacrer un film documentaire entièrement à une personne. C'est comme si j'avais besoin finalement de quelque chose d'un petit peu plus, je sais pas, éclaté en apparence, et qui finisse par créer un sentiment commun, mais et donc la question du lien affectif et du lien de confiance se pose un peu différemment, parce que forcément, quand bien même je pense réussir à créer un vrai lien, une vraie relation, et oui, quelque chose, une confiance assez belle avec les gens que j'ai pu filmer, c'est pas comparable avec toi qui, comme je le disais, est une sorte de maman de cinéma, je sais pas, pour Belinda, pour Sabrina, pour Anthony, enfin, que tu suis sur 15 ans, enfin, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment tout à fait différent. Mais et moi, à chaque fois, ça a été des tournages. Enfin, les deux fois où j'ai fait un documentaire, c'était un tournage plus ramassé dans le temps. C'est-à-dire, L'île au trésor, c'est un été. Et c'est les rencontres qui se sont déroulées pendant cet été-là. Toi, j'ai l'impression que tes tournages, à chaque fois, se déroulent sur plusieurs saisons. On voit les saisons passer, on voit enfin, sauf erreur de ma part, le petit garçon Nicolas grandir, même dans je ne voudrais aimer personne. J'ai l'impression qu'il n'a pas le même âge au début et à la fin, ouais. Oui, donc enfin, ça m'intéresserait beaucoup, en effet, que tu parles, peut-être on a déjà parlé hier et avant-hier, mais de la façon dont ouais, dans cette relation, forcément, j'imagine, par éclipse, enfin, se construit et dure sur si longtemps, quoi. Enfin, le plaisir qu'il y a éventuellement à se retrouver, enfin, ou le lien peut-être qu'il y a à reconstruire quand vous vous retrouvez, sans vous être vu pendant peut-être plusieurs années. Enfin, ouais.
C'est vrai que souvent quand... je sais plus comment ça s'est passé d'ailleurs. Oui, j'avais rencontré les petites au foyer, donc ça m'a semblé aller de soi. Je sais plus comment ça s'est passé, mais on est resté un peu en contact au téléphone, je sais plus. Ça m'a semblé une évidence de pas perdre le contact. Et quand j'ai retrouvé, je suis retournée voir Sabrina, qui était enceinte de Nicolas. On s'est vraiment dit, bon allez, on s'est bien marré, enfin on s'est quand même bien amusé pour avec ou sans toi, on tente quelque chose, quoi. Et donc à chaque fois, c'est vraiment dans cette idée-là. Mais il y a aussi ces deux films que j'ai fait avec des manouches de Forbach et de Colmar, où là, pour le coup, je suis vraiment allée ne connaissant absolument personne après la rencontre que j'ai faite à travers Je voudrais aimer personne. Il y a une scène de fête foraine où Belinda il y a une scène assez jolie où les deux jeunes gens se rapprochent, etc. Et où les deux jeunes filles regardent ce garçon, ce beau gitan qui part et qui dit « Je vais chez mes cousins à la manufacture de l'autre côté des rails. » Et c'est vrai que je suis partie courageusement toute seule, enfin si, avec un ingé son qui était complètement tétanisé, chez les gitans de Colmar, qui habitent au bord du chemin de fer, avec le chien un peu pelé, la laisse, les trucs à rempailler. C'était quand même un univers pas très... qui ne s'offrait pas comme ça, où j'allais pas lui expliquer Wiseman, Van der Kuyken, moi, les autres. Bon, il fallait quand même un peu y aller. Et c'était drôle d'ailleurs, parce que il y avait Ramon Shaw, un gars qui ressemble un peu entre Jean-Yann et Marlon Brando, si ça vous dit quelque chose à peu près, avec un chapeau super, très, très classe, un costume. Des chaussures en cuir pointues. Enfin, on m'a dit, c'est ce monsieur-là qu'il faut voir. Parce que Pesso, le jeune garçon, entre-temps, était en prison. Bon, bref, je ne pouvais pas le retrouver. Donc, je me sentais un peu... on ne savait plus trop ce que je venais faire là. Et en même temps, j'étais très attirée par l'endroit. Je n'avais pas du tout envie de repartir. Et ce monsieur habitait une maison toute en bois, toute vissée, avec marqué « Baltrap » dessus. Et tout autour, il y avait des caravanes, des maisons en briques, en bois, comme dans Les Trois Petits Cochons. Enfin, un peu dans tous les matériaux possibles. Et ce monsieur qui trônait avec cette maison qu'il avait fabriquée, visiblement, qui avait beaucoup, beaucoup de classe. Hein. Et dans son rez-de-chaussée, il y avait une espèce d'endroit où il faisait des prières. Donc, il m'a vraiment regardé les deux mains comme ça, de toute sa hauteur, comme si j'étais une petite chose comme ça qui rampait à ses pieds. J'ai dû expliquer, je ne sais plus comment je me suis débrouillée. Il m'a dit, venez ce soir. Et j'y suis allée le soir même avec une autre ingé son, une fille d'ailleurs, qui avait moins peur. Et pas par un hasard, complètement par hasard. Et il y avait plein de gitans qui arrivaient de partout, enfin des manouches, pour faire une réunion comme ça. Là, je me sentais plus du tout de filmer. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce que je vais filmer ces gens? Je ne sais absolument pas de quoi ce film va parler, de quoi qu'est-ce. Et j'avais plus du tout envie de... Enfin, je me disais, mais c'est ridicule d'être avec une caméra là, je ne les connais pas. On dirait que je fais un reportage. Et Ramon Shaw, parce qu'il s'appelle Ramon Shaw, a une façon très, très jolie de nous présenter en disant, bon voilà, là, nous avons deux sœurs, une sœur qui venons de Strasbourg, c'était mon ingé son, une sœur qui venons de... Parce qu'il, disent toujours, de Paris. Bon, ils tourneront des films. C'est leur grâce. Alors, on ne va pas les embêter, on va leur laisser tourner leurs films. Et sachant que les gens étaient là pour faire ces réunions, ces prières, etc., enfin, ces trucs. Et finalement, je trouvais que c'était une façon assez... Chacun, c'était un peu une façon de dire chacun son... Chacun sa folie, quoi. Chacun sa façon d'être au monde. Nous, on prie le Seigneur, elle fait des films. Bon, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de saut de façon d'arriver à une vérité ou à quelque chose. Et je trouvais ça assez, assez simple et assez juste, quoi. Et du coup, la confiance, elle s'est... comme dans la vraie vie, quoi, en fait. Mais c'est vrai que je passe pas des heures à... En tout cas, même si je vais dans des mondes un peu à part, parce que si je connais bien, pour le coup, enfin, j'ai grandi un peu à Sartreville, etc., mais il n'y a pas cette communauté, enfin, c'était quand même pas à ce point rock'n'roll. Mais pour autant, ça me semble pas très exotique, mais je passe pas des jours et des jours à faire semblant d'être sympa, à éplucher des pommes de terre pour avoir l'air d'être la fille sympathique qui... C'est pas ça, puisque au bout du compte, je vais être là pour faire un film. Donc, y a quelque chose de beaucoup plus immédiat, intuitif et qui marche ou qui marche pas. Enfin, on voit tout de suite, c'est comme dans la vraie vie. En fait, on voit tout de suite les gens avec qui ça va pouvoir. Il va y avoir quelque chose qui va, un chemin qui va se tracer et ou pas, et qui va être. Qui je vais avoir envie de filmer. Est-ce que la caméra va réussir à le révéler un peu comme un bain chimique, enfin, est-ce que ça va marcher ou pas, c'est vraiment très intuitif, et le rapport se fait comme ça, presque, déjà avec la caméra, même si je filme pas du tout le temps, et qu'il y a beaucoup de moments où je suis avec ma caméra à côté, mais j'y vais pas tellement sans caméra, quoi, j'y vais pas pour parler de la pluie et du beau temps, parce qu'au bout du compte, je suis quand même là pour faire un film, et c'est... Ça me semble presque plus juste, quoi, d'arriver déjà, sans me jeter sur les gens, bien sûr, avec une caméra, mais la relation, elle se fait ou elle se fait pas, mais assez intuitivement, comme ça, et assez autour du film, en fait. Le lien, il passe plus dans le film, par la place que je prends quand je filme et ce que je vis un peu dans les moments où je suis en tournage, que...
Et voilà. Tu t'es jamais... La question ne s'est jamais posée. Enfin, dès le départ, il était évident que c'est toi qui faisais l'image et... Tu n'as jamais eu le désir de travailler avec un chef opérateur ?
Non, parce que j'aime bien ça. J'adore filmer. C'est aussi une façon d'être en lien avec, avec les personnes, quand même. Enfin, on peut tout à fait ne pas filmer. D'ailleurs,
ça... Oui, non, mais si je pose la question, c'est justement... ouais. Moi, j'ai... Enfin, on en parlera après, mais enfin, je te laisse répondre d'abord.
Mais... Ouais. Non, mais c'est la façon que j'ai trouvée d'être justement près des gens. Filmer quelqu'un, c'est presque comme être... je ne sais pas pourquoi je pense à cette comparaison, mais parfois, dans des villages, on est à côté de quelqu'un sur un banc, on ne se dit rien. Et en même temps, il y a une proximité physique, un silence, quelque chose de... Une texture de l'air, je ne sais pas quoi, quelque chose d'assez fort qui peut se mettre en marche, enfin, qui existe, et filmer, pour moi, c'est de l'ordre du geste vers quelqu'un, ou de la... Moi, c'est comme ça que je trouve ma place, en tout cas, je me vois très très mal, et c'est au-delà de... Si on était trop nombreux dans une petite pièce, dans une cuisine, ça gênerait l'intimité, parce que je prends... Enfin, j'ai l'impression de radoter un peu, mais je prends quand même une caméra assez importante, assez imposante. J'ai une ingé son qui est très encombrante aussi, enfin très encombrante parce qu'elle perche, etc. Je fais pas du tout, j'arrive pas du tout avec une caméra de un petit truc à la façon de James Bond, une caméra de surveillance discrète pour me faire oublier. Je fais vraiment tout pour pas me faire oublier. Je fais même des claps de fin. Faut le vouloir quand même. Enfin, pas non plus à l'ancienne, mais je dis comme ça, clap de fin, je signale quand ça s'arrête, ou je dis on tourne, souvent. Un peu exprès, justement, pour que les gens ne m'oublient pas et sachent qu'on est là pour faire un film. Et je sais que c'est curieux, parce que c'est souvent une intimité, mais voilà, et je filme tout au 35 mm à peu près, je ne change jamais de focale, ce qui fait que je me rapproche pour les gros plans, je m'éloigne et j'explique aux personnes que je filme que je ferai comme ça et que je changerai plus de façon de faire pendant tout le tournage. Et c'est ma façon à moi de trouver ma place, même physiquement, dans la relation et dans l'espace.
Non, mais c'est intéressant parce que moi, par exemple, sur le tournage de L'île au trésor, où je faisais pas l'image, de toute façon, je sais pas faire. Enfin, je sais. C'est comme si la technique m'encombrait trop et que si je devais me soucier de questions techniques, en fait, je n'arrivais plus à être dans la relation avec. Avec l'autre. Et donc, bon, évidemment, en fiction, c'est pas moi qui filmais, et en documentaire non plus, même si à plein de moments, j'avais cette espèce de. Je souffrais de pas. Où il y avait quelque chose de compliqué d'être en train de rien faire. Enfin, et. Oui. Mais je me rends compte que moi, dans mon rapport au cinéma documentaire, Et ça, c'est une différence entre ton cinéma et le mien, c'est que j'ai besoin en quelque sorte que ma présence disparaisse du film et de laisser en fait le spectateur, je pense, seul avec les personnages que je lui ai en quelque sorte apportés, enfin, à travers le film, mais de plus moi être présent à travers des mouvements de caméra, à travers éventuellement ma voix, à travers des regards qui pourraient, des échanges de regards, etc. Et en fait, du coup, de laisser vraiment le spectateur avec,
se dépatouiller,
en tout cas totalement libre face à un cadre dans lequel se trouve quelqu'un, avec la liberté d'être avec ce quelqu'un, ou éventuellement, comme c'est souvent chez moi, des cadres fixes et qui sont assez, en plus souvent assez aérés, assez larges, etc. Pouvoir éventuellement aussi peut-être penser à, enfin, regarder autre chose dans le cadre, ou penser à soi, à sa vie, ou je ne sais quoi, et tisser des liens avec le personnage, mais ce qui est une démarche fondamentalement différente de celle d'être présente en tenant la caméra, de temps en temps, en t'exprimant, en échangeant des regards avec le protagoniste, ce qui fait que on ne t'oublie jamais. Enfin, tu es là dans le film tout le temps. Et ça, je sais que c'est des grands clivages dans le documentaire, etc., des grandes discussions théoriques. Je me souviens que sur mon tournage, l'ingénieur du son, qui vient vraiment du documentaire, me disait « Mais il faut que tu sois dans le film, je pense qu'il faut que... on t'entende, etc. » Et je disais,
Nantillé par les cadres que tu décides de faire même. Mais
j'y suis autrement. Et puis j'y suis aussi par, évidemment, tout un travail de montage extrêmement précis qui fait que je pense que. Voilà, je suis dans le film, mais tout en étant effacé, quoi, en quelque sorte. Mmh. Mais ça, c'est une question que je voulais. Enfin, c'est quelque chose dont j'aimerais parler avec toi, parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez fondamental.
Oui, mais en même temps, c'est assez mystérieux, parce que. Ça va on, c'est pas, on, non, c'est assez mystérieux, parce que justement, quand je vois tes films, alors je pense à L'île au trésor, c'est le seul documentaire que j'ai vu, donc. Je vois toujours ce que tu regardes, c'est-à-dire que je trouve que tu es très présent. Et il y a d'autres films dont je tairai le nom par élégance naturelle, non, je plaisante, mais où la personne filme elle-même et où je la vois pas, enfin, je sais pas comment dire, où ça me ramène pas sa présence pour autant. Donc je pense que c'est encore. Enfin,
non, peut-être que ça ramène sa présence, mais tu ne vois pas la relation avec.
Oui,
l'autre,
ou
peut-être.
La place n'est pas juste, ou quelque chose qui fait qu'elle a beau filmer elle-même. Ça, pour moi, ça marche pas, ça m'intéresse pas, enfin, ça n'apporte rien de. En termes de point de vue, ça n'apporte rien finalement. Alors que, contrairement à ce que tu fais, qui apporte vraiment ton point de vue, même si tu as demandé à quelqu'un de le faire à ta place, mais tu y es quand même. Alors, c'est un peu indicible, je sais pas à quoi ça tient, mais en tout cas, il suffit pas de tenir une caméra pour avoir un point de vue, ça c'est sûr.
Mais ce que je veux dire, c'est que d'une certaine façon, même si je trouve qu'à plein de moments, tes documentaires presque regardent vers la fiction, pour autant, on reste dans une forme documentaire. Si tant est que ça veut dire quelque chose, mais c'est-à-dire avec des imperfections, avec des recadrages, avec je ne sais pas, enfin, quelque chose en quelque sorte où
d'assumer,
où tu es présente, où le tournage est présent dans ce qu'on voit aussi, où je sais que moi, par exemple, mais c'est vraiment mon rapport à moi, c'est comme si je recherchais une forme, y compris dans la mise en scène fictionnelle, en fait, enfin, en tout cas, la plus fictionnelle possible, en tout cas, qui efface au maximum les traces, en quelque sorte, de la fabrication et du tournage, qui fasse oublier, en fait, le tournage.
Oui, mais en même temps, on les voit quand... Enfin, pardon.
Oui, on les...
C'est ce qui fait aussi le charme du... Nous ennuyons ces gens. Non, je plaisante. Mais c'est ce qui fait aussi le charme des choses, quoi. C'est que ça reste quand même... Parce qu'il y a des choses qui... Enfin, on sent qu'il y a une volonté comme ça, mais c'est quand même des... Enfin... Bon, bref. Non, mais ça reste comme ça. Mais c'est drôle. Enfin, c'est un peu des grands... Des si, ou je sais pas comment on dit, mais... j'avais montré le film à Alain Cavalier.
Quel film, lequel ?
Belinda.
Ouais.
Et alors ça fait un peu comme ça de répéter quelque chose de quelqu'un qui n'est pas là, c'est mal élevé, mais qui m'avait quand même dit, vos films, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas du documentaire, c'est des récits cinématographiques, et c'est tout, et on s'en fout, quoi. Et bon, après, chacun, après, peut à l'infini, chercher qu'est-ce qui est... Mais, bon, enfin, je ne sais plus, je me suis perdue, mais...
Dans... C'est étonnant qu'ils disent que ce n'est pas du documentaire. Enfin...
Oui. Ben oui, oui, c'est étonnant parce que lui, il tourne comme ça. Enfin, il sait quand même, il a fait un peu de tous les côtés. Mais il m'a dit, je suis formel. Et ce n'est pas de la fiction, je suis formel aussi. C'est du récit cinématographique. Bon, voilà, alors avec ça, bon, on est bien avancé, mais...
Dans les plans, moi, j'imagine que le plan sur l'eau avec les gens, j'oubliais un peu, quand ils vont vers la pyramide, ça c'est préparé dans l'île au trésor. Vous préparez quand même cette séquence, ou est-ce que c'est aussi le hasard du...
Non, c'est que...
Bon, je voudrais poser la même question à Marie après.
De toute façon, dans l'île au trésor, il y a tout un... Enfin, il y a un certain nombre de situations qui sont amenées ou provoquées. Enfin, le réel est provoqué à certains moments, pas tout le temps. Mais cette séquence-là, c'est le protagoniste qui me dit ce soir, je vais emmener avec un copain, on va emmener deux filles à la pyramide. Vous pouvez venir avec nous, quoi. Voilà. Oui, donc en fait, en effet, on sait quelques heures à l'avance que on va filmer ça, donc on a le temps de réfléchir un peu à comment on va techniquement les suivre sur l'eau, sur le lac, jusqu'à cette pyramide, bien sûr. Mais ça, bon, ça pour le coup, je pense que c'est quand même extrêmement fréquent en documentaire de savoir un peu à l'avance que...
Enfin, choisir des situations,
oui,
qu'on a envie,
évidemment,
on sent qu'elles vont provoquer quelque chose de l'ordre de la narration. Enfin,
se mettre d'accord, ou peut-être que Belinda te dit, tiens Marie, demain on va aller
se marier,
on va aller acheter des petits objets pour le baptême, ou j'en sais rien, enfin, mais et que tu sais à l'avance que, enfin, tu n'es pas là en permanence avec elle à devoir réagir à la seconde à ce qui se passe. Enfin,
oui, à tout filmer en me disant, avec un peu de chance, il y aura un truc sympa qui va se passer. Oui, d'ailleurs, avec Belinda, c'est plutôt le contraire. Enfin, on prévoit quelque chose et puis ça va se passer autre chose. Typiquement, le mariage. Mais c'est important. Enfin, oui, je pense que quand on fait des...
Question est donc, enfin, question théorique, est-ce que vous provoquez le réel, Marie?
Je pense que eux...
C'est une question de Robert Kramer et de Van der Keuken. Hein.
Oui. Oui, c'est des allers-retours permanents entre le scénario imaginaire si je prends très concrètement je voudrais aimer personne, où je me dis, bon, je vais construire le film autour du baptême. C'est déjà un choix en soi de dire, j'aurais pu filmer je sais pas quoi, moi. Est-ce qu'elle obtient son... Parce qu'elle suivait un des cours dans une petite classe. Enfin, il y avait plein de fils possibles. Et j'ai vraiment saisi l'histoire du baptême en me débrouillant pour que, presque incidemment, ça revienne sans arrêt dans la conversation, à droite, à gauche, pour pas que le film parte dans tous les sens.
Même si, finalement, je trouve une des séquences les plus belles du film, c'est celle à l'hôtel, au début, je trouve...
Avec la gouvernante.
Ouais, enfin, avec les deux autres employés qui lui apprennent le métier et tout, enfin, les gestes.
Oui, mais typiquement, je suis allée les voir, ces dames. En fait, elles n'avaient pas
spécialement... Oui, on sent que tu as dû parler avec elles, leur demander...
Est-ce que vous voulez bien... je fais un film, est-ce que vous voulez bien... est-ce que ça vous embête si je suis là?
Oui, c'est tout à fait le genre de rapport dans lequel je suis moi aussi.
Et vice-versa. Enfin, pas du tout vice-versa, d'ailleurs, mais... Quand l'idée était de filmer le mariage de Belinda, c'est vrai que je suis arrivée bride à patu, je rentrais de vacances. J'arrivais à joindre personne au téléphone, je suis arrivée chez Franz qui me dit, bon, il n'y a plus de mariage. Bon, ça s'est avéré si j'ose dire, fructueux pour le film, mais quand même assez dangereux. Là, il y a vraiment un pari à faire de dire, bon, bah, est-ce que je lâche tout, est-ce que je rentre à la maison, ou qu'est-ce que je fais, quoi. Et on était là comme tous là autour du canapé, un peu les bras ballants, à se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment bien, parce qu'il y a quelque chose comme ça aussi en documentaire, où les gens jouent aussi leur propre vie, comme s'ils seraient pas réappropriés un peu là. Enfin, moi, c'est ça que j'aime bien, en tout cas, parfois, et pas toujours, parce qu'heureusement, le film échappe, et c'est là qu'il prend corps, etc. Et là, il n'y a plus rien qui est contrôlé, et là, ça donne des scènes très, très belles. Mais il y a aussi des moments où on peut travailler ensemble pour que les personnes se réapproprient presque leur propre vie. C'est-à-dire que, enfin, tout bêtement, je me souviens... il y avait une lettre comme ça que Belinda avait écrite, j'ai vu traîner une lettre et puis je parlais à Franz et je, en même temps que je lui parlais comme ça et je le filmais et en même temps imperceptiblement je lui glissais comme ça, alors c'est pas grave, j'aurais pu couper, j'aurais pu lui dire attends j'ai une idée, tu vas écrire une... bon, mais plus dans le jeu et dans le souffle du filmage. Je lui ai vraiment glissé une lettre comme ça, et lui, en se disant oh, « faut pas que je regarde la caméra, elle attend un truc de moi », a dit « mais il va peut-être falloir qu'on lui réponde quand même à cette lettre, à Belinda ». Enfin, il a saisi le truc, et ils ont réellement mis en place eux-mêmes l'écriture de la lettre, qui est vachement bien, avec Mélanie qui dit « alors, pas de truc à capuche ». Enfin, après, c'est parti complètement dans leur direction.
Mais quand bien même, c'est toi qui leur aurais dit « tiens, est-ce que vous ne voudriez pas réfléchir à la réponse ?» Devant la caméra. Dans le fond, ça aurait pas été fondamentalement différent, parce qu'au fond, ils se seraient posé les mêmes questions tous les deux, et ça aurait été très beau aussi, en fait.
Bien sûr, mais ce que j'aime bien aussi, c'est quand il y a un vrai jeu, quoi. C'est-à-dire que on est tous comme des enfants à dire, on dirait que, et tout le monde, bon, parce qu'ils aiment bien jouer aussi. et pendant le baptême, typiquement, là pour le coup, c'est vrai que Franz venait de tomber en prison. Le père de Sabrina, de Belinda, enfin bon, bref, des filles. Et une fois qu'on a dit il est en prison, bah voilà, et alors quoi. Enfin, c'est vrai que j'avais mon téléphone et que j'ai lancé l'idée de, je sais plus, je crois que c'était à Belinda, de dire ce serait peut-être pas mal, non, d'appeler Franz. Donc, elle appelle, donc je filme, et un peu gênée parce que c'était mes unités à moi, enfin, de téléphone. Et donc je lui dis, je fais juste un et hop. Et du coup, ça a donné ce plan séquence où tout le monde se passe le téléphone. Donc il y a des petites choses parfois qu'on pousse, c'est pas pour tricher, mais c'est pour révéler quelque chose qu'on a vu, mais qu'on essaye de mettre en scène pour le restituer, pour le matérialiser, pour que ça prenne corps et que ça s'exprime. Sinon, c'est très ennuyeux si les gens se racontent. Alors, il est arrivé ici, puis il a fait ça, et puis c'est comme une fiction, en fait. Il faut que ça s'incarne, il faut que ça joue, quoi, en fait. Sinon, c'est très ennuyeux. Tout le monde sait.
Moi, j'ai l'impression que parfois, il faut... Enfin, c'est un peu une évidence, ce que je veux dire, mais qu'il faut parfois un peu... provoquer les choses et en fait que le faux révèle le vrai en quelque sorte et que certaines situations qui peuvent être un peu mises en scène ou au départ artificielles en fait permettent de montrer, de révéler quelque chose de fondamentalement essentiel, enfin quelque chose qu'on n'aurait pas pu filmer ou qui n'aurait pas pu être dans le film si on n'avait pas pris cette liberté-là avec les événements, avec le réel, et que c'est ça qui compte en fin de compte. Ouais. J'ai l'impression que ce qui compte. Oui, oui.
On dit que dans la vraie vie, c'est à travers les mensonges qu'on choisit de faire qu'on se révèle le plus véritablement. Qu'on se trahit le plus. Enfin. À travers le choix de mensonges qu'on fait, ça met le doigt sur quelque chose qui est très profond et très important.
Mais par exemple, là, dans Je ne voudrais aimer personne. Pour le coup, il y a un plan que j'ai trouvé très troublant parce que je me suis demandé quelle était ta position à ce moment-là, comment tu te trouvais là. C'est un plan où Sabrina et son tout nouveau petit ami, c'est ça, justement
Ils
sont allongés sur le canapé dans la pénombre. Et tu es là, on a presque l'impression
qu'ils sont seuls au monde.
On aurait même pu se demander s'ils viennent pas de faire l'amour. Ils sont habillés, mais en tout cas, il y a quelque chose de très... une sorte d'abandon, comme ça, un peu sensuel. On se demande comment tu es là à ce moment-là. Ouais. Voilà.
C'est de toute façon quelque chose qui m'a frappé aussi, si vous me permettez. Les personnages en voiture aussi à plusieurs reprises, qui dorment. C'est quand même, c'est inouï. Enfin, des ouais. personnages dans un documentaire qui dorment devant la caméra. c'est fabuleux.
Ouais. Après, la voiture, je dirais que pour les enfants, c'est pas difficile parce que les enfants, souvent, ils s'endorment en voiture. Donc là, j'ai aucun mérite parce que c'est vrai que. En plus, elle venait vraiment de prendre des trucs très difficiles, Belinda, là, quand même, la séparation, la sœur, le machin. Donc dormir, c'est souvent des choses qu'on fait pour se rassembler en voiture. Mais en effet, il y a d'autres choses qui sont c'est assez mystérieux, parce que cette scène de la chambre... Il y avait quand même juste à côté Logan. Enfin, en fait, ils étaient tous les deux.
Le petit bébé monte après sur le canapé.
Il y avait le bébé, il y avait le petit frère aussi à droite.
Ah, d'accord.
En fait, il y avait tout un
hors-champ. Ouais.
Un hors-champ qui, petit à petit, est entré dans le champ. Mais moi, j'ai voulu vraiment faire une image de... C'est moi qui ai cadré comme ça, un peu serré sur eux, du fait de la dispute qu'il y avait eu avant, enfin de David, qui est assez poignant, parce qu'on peut... Il est superbe, quoi, quand il ose pleurer devant la caméra pour un... Un gars comme ça, je trouve que c'est quand même magnifique.
Ouais, c'est très beau, ça.
D'avoir le cran de... Et là, ce n'est pas de la mise en scène. Hein. C'est vraiment... Et je lui ai dit, après, ça t'ennuie pas trop, David. Enfin, je le connaissais pas bien, en plus. Et il l'aimait, quoi. Donc, il était... Enfin, c'est classe, quoi. Enfin, il était presque fier d'être capable de pleurer. Donc, pour elle. Donc, j'ai recadré ça pour dire... Pour raconter, bon, ça y est, ils s'aiment de nouveau, tout va bien, ils se sont retrouvés.
Ah, parce que c'est David qui est sur le lit ?
Oui.
Ah, parce que moi j'ai cru que c'était l'autre, j'ai cru que c'était le beau gosse de la fête foraine.
Ah non, malheureux. Non, le beau gosse, c'est le... Non.
D'accord, le parce que gosse. dans la pénombre, j'ai...
Non, alors là, parce qu'après, moi, on se serait tous retrouvés.
Ah, ouais, bah, ah oui, bah alors d'accord, non. Ouais. Bah, tu vois, j'ai fait un contresens, j'en suis désolé.
Non, c'est pas grave. Non, le beau gosse de la fête foraine, c'est le prétendant de Sabrina, de la sœur, en fait.
D'accord.
C'est pour... Oui, d'accord.
C'est un petit peu emmêlé.
Donc voilà, et puis petit à petit, le petit est rentré, tout était en ordre, il y avait un garçon, la pudeur était...
Et je me demande si finalement un des personnages que j'ai pas eu le plus de plaisir à retrouver de film en film, c'est, enfin d'ailleurs il est pas dans tous les films, mais il est au moins dans deux ou trois, c'est je sais plus comment il s'appelle, l'éducateur extrêmement...
Le coryphée Gersheimer, ouais,
ouais, qui est absolument bouleversant, et je trouve que c'est peut-être le personnage qui dégage le plus d'humanité de tous tes films, en fait.
Ouais, en tout cas, enfin, les autres dégagent aussi beaucoup pour moi, hein, mais disons que c'est celui qui nous ressemble peut-être le plus.
Oui, c'est peut-être à mi-chemin entre les personnages et nous, quoi.
Bah oui, c'est pour ça que c'est plus facile peut-être pour nous de nous identifier, mais c'est un monsieur extraordinaire.
Ah oui, qui dégage une bonté incroyable.
Il est vachement bien. Et j'ai pas voulu, justement, dans Belinda, il est très présent, mais j'ai pas voulu le filmer. Il est juste au téléphone. C'est vraiment le coryphée, quoi. Enfin, il a ce rôle comme ça. Et on le voit un peu au début, dans un moment qui n'est pas en plus très, très gratifiant, parce qu'il sépare quand même les sœurs, ce qui n'est pas l'idée la plus géniale qu'il ait eue, mais il le reconnaît très librement. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de bien. Et j'étais contente qu'il soit présent dans le film comme ça, enfin, d'avoir réussi à le ramener. Et il dit juste ce qu'il faut de... C'est une petite passerelle entre les mondes, parce qu'il vient du monde normal, enfin du monde, on va dire, d'une autre, pour simplifier même grossièrement, mais en même temps il a un côté un peu personnage de Capra, enfin il est assez atypique dans son genre, c'est pas l'éducateur, enfin j'ai absolument rien contre les éducateurs, heureusement qu'ils sont là parce que personne d'autre ne s'occupe de, mais il oui.
Est-ce qu'on peut vous poser des questions?
Bien sûr, oui, mais c'est
vous,
c'est
fait.
Parce que là vous parlez de documentaire. Pardon. Là, vous parlez d'un documentaire, c'est très intéressant, mais nous, on ne l'a pas vu. Dire, si on avait vu le documentaire avant et que vous en parliez, il y aurait un intérêt. Là, on est complètement dans l'abstrait. Enfin, peut-être quelle projection a eu lieu, parce que moi, je suis là complètement par hasard. Ce que je voulais vous demander, c'est beaucoup plus...
Je vais vous raconter le film.
Beaucoup plus... Moi, technique, c'est-à-dire, qui produit, qui vous demande, où est-ce que c'est projeté, est-ce que c'est rentable de faire des documentaires, et quelles sont les idées, enfin je veux dire, quand vous en faites un, vous parlez des manouches, il y a bien un moment où il y a un déclencheur, je veux dire, je ne sais pas combien vous avez fait de documentaires et ainsi de suite, c'est-à-dire, pour qu'il puisse être fait, il faut que quelqu'un paye. Qui paye, et où c'est projeté, qui regarde et qui s'intéresse?
La manière est un peu brusque, mais à la fois ça rejoint une question que je me pose beaucoup en ce moment, et je trouve que ce serait intéressant qu'on en parle, c'est en effet la question de, au fond, c'est une vaste question, à quoi servent les films et qui voit les films, et ça c'est une grande question, je trouve, notamment en documentaire, où on se dit que finalement ceux qui voient les films ne sont probablement pas ceux à qui les films pourraient le plus servir ou apprendre, je sais pas comment, et que souvent les films sont vus par un public qui est déjà acquis en quelque sorte, et que, enfin bon, mais c'est, ça c'est une vraie question, je trouve, mais bon, peut-être ça rejoint un peu la question du monsieur, mais
S'agissant de alors, ça rapporte pas grand-chose, hein, je vous le rassure tout de suite. Pour, vous êtes de la partie ou qu'est-ce que... Pardon, je peux me permettre de vous...
D'où la question très précise.
Combien
Combien À qui
Sachant que pour se remplir, une Benoît-Yoward... Non, en tout cas, moi, ce que ça, c'est une question, bon, mais il y a quelque chose d'intéressant quand même dans ce que vous dites, c'est que ce qui est très difficile, merci Eric, je fais des films, en tout cas, alors vous ne les avez pas vus, hein, mais pour vous résumer, là, pour le coup, je filme un peu un monde à part, un monde oublié de tous, une marge dans l'humanité, des gens que personne ne regarde, qui sont un peu, quand même si je les filme dans ce qu'ils ont, enfin, dans leur, ce que je considère être leur humanité, leur beauté, etc. Mais c'est des gens qu'on ne regarde pas, qu'on ne filme pas, vers lesquels on ne va jamais s'aventurer dans notre cinéma en France.
Quand bien même, je ne suis pas absolument d'accord avec toi, parce que j'ai quand même le sentiment qu'il y a malgré tout une école, enfin pas une école, mais tout un pan du documentaire qui va justement vers des milieux très populaires.
Mais justement, pardon, là-dessus, je suis très... J'ai beaucoup...
Oui, mais je te prends exprès parce que...
Justement, il y a un souci, enfin, il y a souvent dans le documentaire, en France, on filme les pauvres, enfin, les autres, mais à travers le prisme d'une institution, d'une problématique. Très, très souvent... Oui. Ils sont dans un bureau, ils cherchent des papiers, ils cherchent un travail, ils cherchent quelque... Enfin, voilà, donc, et c'est des films très utiles et très intéressants et tout ça, hein, mais
ils sont pas filmés... Mais pas en tant que pur personnage de cinéma, quoi.
Voilà, c'est ça.
En tout cas,
De personnes, en fait. Enfin, ils sont un peu...
Vous savez, c'est une démonstration, peut-être ou... enfin...
Oui, mais même c'est pas aussi péjoratif, mais ils sont un peu aux prises avec... des problématiques nôtres qu'on projette peut-être sur eux, enfin, j'aime pas dire eux, nous, mais en tout cas, oui, il y a des institutions entre nous et eux, et souvent, j'ai remarqué que le documentaire est beaucoup, quand on filme des pauvres, c'est voilà, c'est souvent, il y a un cadre, un dispositif qui fait que tout ça est un peu circonscrit. Et c'est vrai que... Et c'est pas non plus dans nos gènes cinématographiques de fiction, de filmer. Beaucoup ces marges, il y a eu le Front Populaire un peu. Mais en France, on n'est pas, par rapport aux Italiens, les Rossellini, les Pasolini, etc., ou les Ken Loach, tu sais.
C'est vrai, mais là encore, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, parce que j'ai l'impression que notamment le cinéma français dans les années 90, il y a eu beaucoup qui se sont aventurés en province, dans le nord, beaucoup. Il y avait un peu une mode des films dans le nord de la France,
oui,
etc.
C'est fragile, enfin, c'est pas, il n'y a pas cette tradition, il n'y a pas eu les néo-réalistes italiens, on n'a pas eu de Loach vraiment, enfin. Et là, il y a quelques films. Il y a Sherazade, par exemple, qui vient de sortir, qui est vachement bien, d'ailleurs, j'ai trouvé. Mais c'est pas grave. C'est
ou
pas
différemment les films de Dumont.
Voilà, mais c'est quand même très sublimé chez Dumont.
Oui.
C'est très... C'est quand même pas... c'est particulier aussi, Dumont. Mais ils sont rares. C'est assez rare, déjà, en fiction et en documentaire aussi. Donc... Voilà, et donc c'est vrai que j'ai complètement perdu le fil du truc.
La question était pour qui on fait les films, ou qui les commande, qui
les demande.
Et donc
j'ose espérer quand je... Voilà, j'ose espérer, pardon, ça est revenu. Quand je filme ces gens-là, même s'il n'y a pas... ça ne va pas faire forcément c'est pas un jackpot, ça va pas rapporter... Ce n'est pas des films forcément fédérateurs, parce que ça fait un peu peur peut-être, parce que c'est les autres, parce que c'est une marge, mais j'ose espérer que les gens qui vont le voir... Que ça va quand même abolir un peu des frontières et des passerelles, et enfin ça va faire des passerelles quand même, parce qu'on va peut-être pouvoir s'identifier à des choses qui nous sont communes. Aimer la famille, avoir un enfant, pas en avoir, aimer, se séparer, résister à un obstacle, ne pas résister, lâcher, être fidèle, enfin, toutes ces choses qui sont très simples et qui font que, voilà, je me dis, ça va aider à
oui,
en fait, à éclairer cette marge et à la restaurer, à la réhabiliter et avoir une dimension de tragédie grecque presque très universelle.
En fait, je comprends exactement ce que tu veux dire parce que c'est justement filmer, comme tu dis, peut-être certaines marges ou des milieux très très modestes, mais finalement pour filmer des histoires d'amour, des histoires de filiation, de mariage, etc. Et des choses extrêmement universelles qui, du coup, en effet, créent une sorte des ponts émotionnels entre le spectateur et ce monde qui peut-être est pourtant assez loin de lui. Et c'est exactement de recréer une humanité en quelque sorte, enfin commune, quoi. Voilà.
Ouais.
Et là où peut-être, en effet, il y a un pan du documentaire qui filme avec un autre prisme, enfin
une distance qui est voilà, qui est plus
La distance d'un sujet, d'une problématique, et ne filme pas juste les émotions, les sentiments, ou les peut-être c'est ça que tu
voulais
dire.
Oui, c'est ça que je veux dire.
Mais alors, est-ce qu'on a répondu à la question de monsieur ? Je suis pas certain du tout. Ouais.
Bah, pourtant,
c'était peut-être
passionnant.
Marie, faut que tu continues. Mais...
Au cinéma, là par exemple au MK de Beaubourg, enfin il y a des cinémas, il y a un réseau de cinémas.
Cinéma grand public ou cinéma style Beaubourg ?
Arrêt-essai.
Arrêt-essai. Ouais, c'est pas bien ? Non.
Si.
Quand vous faites une commande, quand vous faites une demande, c'est une commande ou pas une commande ?
Non, c'est pas une commande. Enfin, ce qui me concerne, je sais pas toi.
Qui est tout
produit ? Des producteurs, des gens dont c'est le métier en fait. Qui...
Avec quel argent ?
Voilà. Avec quel argent ? Avec le vôtre ? Non, pas finalement avec le vôtre, parce que... Pardon.
Ben, on est dans un cadre d'un hommage à un producteur qui est coproducteur d'un certain nombre de vos films,
oui.
Les films d'ici.
Oui, bon, enfin, ils sont pléthores, comme ça, il y a plusieurs producteurs qui... Pardon, mais madame voulait dire quelque chose qui avait l'air bien. Ouais.
Merci, pardon. C'est juste pour rebondir par rapport à justement à la façon dont ces films ont été produits, quoi. Entre, enfin, les quelques-uns, jusqu'à Belinda qui apparemment est sortie en salle. Mais est-ce qu'il y a au départ, est-ce que vous étiez dans un cadre audiovisuel, voilà, de façon très technique, et est-ce que après vous êtes passé avec des sorties salles avant sur recette ou voilà.
Mais en fait, les trois derniers films que j'ai faits, alors ça répond. Et je les ai fait avec l'avance sur recette, en fait, ce qui m'a permis de sortir de l'ornière. Non, c'est très bien la télé, mais ce qui, pour nous, est quand même une façon de pouvoir sortir les films en salle, même de façon modeste, parce que bon, là, ce n'est pas des films qui forcément attirent énormément. En plus, le milieu du cinéma parisien est un milieu... Bah, c'est vrai, enfin, c'est un milieu assez... Enfin, ce n'est pas des univers auxquels on est forcément habitué. Enfin, bon, c'est parfois un peu délicat. Et donc, c'est, voilà, c'est les avances sur recettes qui ont fait que ces films ont pu sortir là. Comme ça. Ouais.
Il y a 23 chaînes de télé sur la TNT.
Mmh.
Ça intéresse personne ?
Si.
Si, mais c'est des gens qui ils peuvent pas... Enfin, je veux dire, c'est n'ont pas de budget, les chaînes de la TNT vont donner très 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 peu d'argent, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc c'est pas comme ça. Bah non,
oui, ils récupèrent des contenus, mais...
Oui, pas nous...
Ils ne sont pas à l'origine des contenus, quoi.
Non, non, puis ils ne mettent pas d'argent, enfin...
Oui, c'est ça.
En gros, donc voilà. Et les chaînes, mais dites...
Vous faites des documentaires sur des gens qui ont été difficiles, je veux dire les Manouches, ainsi de suite, donc est-ce que vous avez fait des documentaires sur des gens qui ont une vie facile?
Ben écoutez, pas encore. Si, j'ai
qui
fait
sont,
un.
Qui sont riches, bons et en bonne santé.
Ben c'est vrai que c'est difficile, mais si, j'ai fait un film dans un petit bac à sable sur les parents avec les enfants. C'était une comédie documentaire, tout le monde allait très très bien et dans le meilleur du monde. Guillaume filme des gens qui sont quand même en bonne santé. Hein. Enfin.
Ouais, mais non, mais c'est étonnant parce que Ouais. Tu sembles dire que je filmerais peut-être moins.
Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a le gitan, Manouche, oui. Lumpen, etc. Oui. Voilà, peut-être que ça impressionne un peu monsieur.
Oui, non, mais bon. Île au Trésor, j'ai filmé
une
base de loisirs de la grande banlieue parisienne, qui est quand même fréquentée essentiellement par des gens assez modestes.
Très modestes, ouais.
Pas que, mais en grande majorité. Et pour autant, ça aussi c'est une différence, c'est que toi tu n'as pas peur de montrer à l'écran des situations d'assez grande précarité humaine, matérielle, etc., des choses qui peuvent presque un peu heurter la sensibilité du spectateur. Et d'une certaine façon, moi je sais que j'ai besoin peut-être davantage d'adoucir ou d'arrondir certains angles pour que finalement il y ait la représentation soit peut-être un peu plus acceptable, un peu plus douce, et que toi tu n'as pas peur de montrer même dans les manières, le rapport au langage par exemple n'est pas tout à fait le même, je pense, dans L'île au trésor, où quand même dans l'ensemble les gens s'expriment assez bien. Dans tes films, il y a certains personnages, je pense à la mère de Sabrina Belinda, qui a une manière de s'exprimer qui est vraiment extrêmement rude et crue. Et ça, je sais par exemple que moi, j'aurais plus de mal, par exemple, de
Sergi, hein, Martine.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Martine, elle n'irait pas à la base de Sergi.
Non, peut-être pas, c'est encore un autre monde. Mais en quelque sorte, des Martines, j'en ai vu à Sergi, mais je ne les ai pas filmées, justement.
Cela dit. En même temps, moi, je fais quand même assez attention à je cherche pas les gros mots. Enfin, je sais pas. Qu'ils s'expriment plutôt pas mal. Il y a une espèce de poésie dans le langage. Bon, ils sont vanniers, ils ont un accent incroyable. C'est des yéniches. Bon, bref, c'est une façon de parler très particulière, mais il y a un certain raffinement.
Je trouve, chez les filles, par exemple, ou chez Anthony, dans
même chez Jimmy,
plutôt
du style une vieille chaille en bois ou des trucs comme ça, mais c'est pas méchant, ça va pas chercher trop loin.
Non, mais par contre, c'est vrai que c'est une question, d'une certaine façon, je me suis très souvent dit qu'il y a dans le documentaire malgré tout, je ne dis pas du tout ça par rapport à tes films ou aux miens, mais il y a quand même peut-être une surreprésentation des milieux modestes, des classes populaires, et une sous-représentation des milieux bourgeois, mais pour une raison, enfin pour différentes raisons, mais l'une des raisons étant aussi, je pense que c'est aussi probablement plus difficile que ce sont des gens qui peut-être se protègent davantage, se méfient davantage de...
Le bonheur ne se raconte pas,
Non, je pense que si toi ou moi on voulait un jour faire un film sur une famille de la grande bourgeoisie parisienne, je pense qu'on se heurterait à peut-être davantage de barrières, de méfiance, de réticence, c'est une autre forme d'empathie qu'il faut réussir à créer pour que le spectateur puisse être touché, adhérer.
Mais c'est vrai que le premier film que j'avais fait dans un bac à sable, justement sur les parents, qui était dans mon quartier à Montmartre, tout à fait comme il faut, c'est vrai que c'est une autre. C'est encore une autre façon de... C'est très différent. Et en même temps, pas tant.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Non ? Est-ce que vous, Guillaume, vous voulez encore ajouter quelque chose ?
J'aurais bien aimé qu'on dise un mot des fameuses chansons de variété qui scandent très régulièrement tous tes films, et dont on parlait tout à l'heure. Et j'imagine qu'il y a quelque chose, je commence à répondre à la question que je te pose, mais ça participe toujours à cette volonté que je trouve très belle de créer des passerelles émotionnelles et d'atteindre quelque chose d'universel, parce qu'on sait que c'est un lien entre des mondes très éloignés, des chansons de rock ou de variété, etc. Et que c'est aussi ce qui peut, j'imagine, rendre très proche de nous.
C'est exactement ça en fait. Tout à coup, tu te replonges dans une chanson que toi-même t'as écoutée après un chagrin, etc. Et voilà.
Mais ce qui est amusant, c'est que il y a certains moments où je sens que c'est des chansons qui sont, comme on dit, en intradiégétique, enfin qui sont qui passent dans la réalité que tu filmes.
Ouais.
Et puis il y a des moments où notamment j'ai l'impression dans certains trajets en voiture, j'ai l'impression que tu prends un plaisir à quasiment à chaque fois rajouter une chanson.
Alors, pour être tout à fait honnête, il y a les chansons dans Avec ou sans toi notamment. C'est un peu des deux, c'est-à-dire que c'était il y avait de la musique. Moi, j'ai amené ma musique et je l'ai mise dans le.
Ah oui, carrément.
Ouais. Ouais. Donc parfois c'est vraiment la musique qui est à la radio, etc. Mais parfois c'est vrai que c'est des musiques que moi j'ai écoutées pendant le tournage, qui correspondaient à des humeurs miennes, à des choses qui me donnaient du courage pour me lever le matin, pour aller filmer, pour le soir rentrer dans ma chambre d'hôtel avec brassée par tout ça, et des musiques qui étaient proches de émotionnellement de ce que je vivais au moment du tournage, en interaction avec le tournage. Et donc là, je l'ai privilégié dans le chant, et pas toujours. Parfois, c'était des vraies musiques. Et puis, il y a les musiques qui marquent parfois dans Belinda, les trois ellipses temporelles. À chaque fois, il y a sciemment une musique que j'ai rajoutée parce qu'elles disent une époque, parce qu'elles disent un temps qui passe, parce qu'elles... Enfin, voilà. Et de même que dans ton travail, je trouve que, alors c'est pas les musiques, mais c'est les...
Si, si, moi, tous mes films se terminent par une chanson de rock ou de variété.
Voilà, déjà il y a ça, et puis ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a aussi ces scènes qui sont tellement emblématiques, enfin les scènes de drague, enfin ces choses-là qui sont tellement, qui racontent tellement un territoire atemporel, universel et tout ça... qui fait que on peut complètement se projeter, quoi. Enfin, on replonge dans nos. Voilà.
Bien, merci beaucoup, merci Marie, merci Guillaume, merci à vous d'être venu. L'échange pour moi, pour ma part, a été très très riche, et j'espère en tout cas vous revoir et voir vos films aussi, les deux. Nous, on continue ici à la Cinémathèque du documentaire La Bépille avec Génération Documentaire, avec cette semaine des films de Stéphane Breton, Carmen Castillo, Claire Simon, Stan Neumann. Et dimanche prochain, on se retrouve ici, j'espère, tous, peut-être un peu plus nombreux même, avec le premier de notre rendez-vous régulier, 13h du Doc, consacré à Jean Cocteau, avec des films, des archives de la Cinémathèque française. Merci et bonne fin de journée.
Maintenant, on boit. C'est quel film de Claire Simon? C'est Cocteau qui parle?
Récréation.
Ah, Récréation.
Tu l'as vu?
Oui, j'ai vu.